Vous écoutez On lit pour vous.
Bientôt un foyer de soins pour les jeunes adultes en situation de handicap. Un texte de Garot Jomoyan, paru le 24 mars 2025 sur le site de Radio-Canada. Des parents de la Saskatchewan saluent l'annonce du gouvernement provincial concernant la création d'un foyer de soins à Saskatoon destiné aux jeunes adultes en situation de handicap. Cette nouvelle structure offrira 8 lits et la présence d'une infirmière à temps plein. Selon le gouvernement, le projet en est encore à ses débuts. De plus amples informations sur les délais, les coûts et l'étendue des services seront déterminées au cours du processus de planification et d'approvisionnement, a-t-il précisé. Il ajoute que ce projet s'inscrit dans un plan plus vaste d'amélioration des services sociaux et d'aide. Le gouvernement a annoncé récemment une augmentation de 77,3 millions de dollars du budget du ministère des Services sociaux pour l'exercice 2025-2026, ce qui porte son financement total à 1,84 milliard de dollars. Un soulagement pour les familles. Adrienne Zakreski, mère d'un adulte en situation de handicap, considère cette annonce comme une avancée majeure. « c'est énorme pour nous tous », affirme-t-elle. Chaque matin, Mme Zakreski consacre 1 heure et demie à préparer son fils Evan, âgé de 29 ans, pour la journée. Atteint d'une infirmité motrice cérébrale sévère et de troubles cognitifs, Evan nécessite des soins constants. Adrienne Zakreski a quitté son emploi dans une entreprise de biotechnologie pour s'occuper de lui à temps plein. « Je dors à moitié. » J'entends sa toux, puis je me lève et je cours pour l'aspirer ou le retourner pour dégager ses voies respiratoires, raconte-t-elle. C'est un travail de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme elle, de nombreux parents s'occupent de leurs enfants handicapés à domicile, mais tous s'accordent sur la nécessité d'un soutien accru. Il y a 3 couples qui ont environ 70 ans et leurs enfants en ont environ 40, souligne Mme Zakreski. Ils s'occupent toujours d'eux à la maison, et certains d'entre eux ont eux-mêmes des problèmes de santé graves. Je ne sais honnêtement pas comment ils font. Un combat pour des structures adaptées. Adrienne Zakreski et Shelley Elder, une autre mère inquiète, dirigent l'Association des parents unis pour des logements spécialisés, Parents United for Specialized Housing Association, qui milite pour la création de foyers de soins adaptés aux adultes atteints de handicaps multiples. En novembre 2023, toutes les deux ont soumis une proposition au gouvernement de la Saskatchewan en ce sens. Récemment, lors de la présentation du budget provincial, elles ont rencontré le ministre des Services sociaux, Terry Jensen. Ce dernier leur a exposé les projets du gouvernement pour la création d'un foyer de groupe de 8 places à Saskatoon, destiné aux adultes en situation de handicap. Shelley Elder, qui s'occupe de son fils Jonathan, 39 ans, atteint de spina bifida, d'hydrocéphalie et de paraplégie, explique que leur proposition est née des difficultés rencontrées avec les foyers de groupe existants. Il n'y a pas de foyer de groupe disponible pour une personne ayant des problèmes médicaux et des handicaps intellectuels et physiques en ce moment, déplore-t-elle. Mme Elder insiste sur le fait que les solutions actuelles ne sont pas adaptées aux besoins spécifiques de ces adultes vulnérables. Nous savons que si nous plaçons nos enfants dans des établissements de soins de longue durée, ils ne feront que survivre, ils ne s'épanouiront pas et ils mourront prématurément. Nous ne considérons pas cela comme une option. Une réponse encore insuffisante? Si la création de ce foyer constitue une avancée, certains estiment que cela demeure insuffisant. Amanda Lewis, directrice de la fondation Realm, qui soutient les personnes handicapées physiques et leurs familles, se réjouit de cette initiative, mais souligne l'ampleur des besoins. Au début, ma réaction a été de dire « c'est fantastique », raconte-t-elle. Cependant, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui est nécessaire. Amanda Lewis s'interroge sur l'adéquation des infrastructures aux besoins réels. Il y a des lits disponibles, mais sont-ils adaptés? demande-t-elle, évoquant les longues listes d'attente et le manque de places adaptées aux besoins spécifiques des adultes en situation de handicap. D'après Shelley Elder, des représentants du ministère des Services sociaux se rendront prochainement à Saskatoon pour discuter des prochaines étapes. Elle estime que l'établissement pourrait ouvrir d'ici 2 à 3 ans, offrant ainsi un premier répit aux familles concernées. C'était bientôt un foyer de soins pour les jeunes adultes en situation de handicap. Un texte de Garo Jomoyan paru le 24 mars 2025 sur le site de Radio-Canada.
Classes manquantes de niveau préscolaire et primaire alors que les écoles débordent. Un texte de Julie Dufresne paru le 25 mars 2025 sur le site de Radio-Canada. Selon les plus récents chiffres du ministère de l'Éducation obtenus par Radio-Canada, il manquera en septembre 1 500 classes de niveau préscolaire et primaire. En clair, ça signifie que 34 500 élèves se retrouveront dans des classes modulaires, dans des espaces réaménagés ou encore déplacés dans une autre école, selon les plus récents chiffres du ministère, en considérant un nombre moyen d'élèves par classe de 23. Cela s'explique en partie par le fait que le ministre Bernard Drainville a annoncé des compressions qui forcent les centres de services scolaires, CSS, à mettre sur la glace une centaine de projets. Ce que le ministère appelle les projets mis sur pause, en attente des disponibilités financières, est détaillé dans une liste qui nous a été transmise. Suspendue, donc, la construction d'une école de 23 classes à Sainte-Julienne, dans la Naudière, une autre de 20 classes à Sherbrooke, ou encore de 24 classes à Contrecœur. L'ajout d'un gymnase à l'école Saint-Gabriel à Windsor, l'agrandissement de l'école Adjagoutak au Nunavik, dans le nord du Québec. Aucune région n'est épargnée. Des taux d'occupation qui explosent. À l'origine de ces demandes de financement de projets, la surpopulation des écoles, et ce, dans de nombreux CSS, comme nous l'avons constaté en leur posant la question individuellement. Quelques CSS nous ont demandé de passer par la loi sur l'accès à l'information avant de nous répondre. Au final, la pleine capacité des écoles est atteinte, voire dépassée, dans plusieurs CSS. Portrait du taux d'occupation des CSS. Au primaire, au CSS de la capitale à Québec, le taux d'occupation est de 105%, par exemple. Au CSS du Chemin du Roi, à Trois-Rivières, toutes les écoles ne débordent pas, mais le taux d'occupation moyen est de 118%. Par ailleurs, les régions sont en général moins touchées que les grands centres. Au CSS Monts et Marais, par exemple, l'école qui affiche le plus haut taux d'occupation, Sainte-Ursule à Amqui, est à 92% de sa capacité. Mais dans la grande région de Montréal, les écoles débordent. Au CSS de Montréal, près d'un établissement sur deux est à pleine capacité ou plus, et parfois largement. C'est le cas des écoles Saint-Antoine-Marie-Claret, 139%, Saint-Émile, 150%, et Saint-Donat, 173%. Au CSS de Laval, le taux d'occupation moyen est de 113%. Dans celui de Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal, il atteint les 117 %. Au CSS de la Pointe-de-l'Île, on calcule les taux d'occupation par secteur. Ils sont de 108 % pour Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, 113 % pour Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, 107 % pour Anjou, Saint-Léonard. La directrice des services corporatifs, communication et secrétariat général du CSS de la Pointe-de-l'Île, Maître Valérie Biron, prévoit procéder à des appels d'offres pour l'installation de 10 classes modulaires dans chacun des trois secteurs pour pallier la situation. Mais il est trop tôt, dit-elle, pour en évaluer les coûts. Un enjeu pour les CSS. Avec cette surpopulation scolaire, le ministère n'exclut pas que certains CSS puissent même se tourner vers la location d'immeubles si nécessaire. Pour l'instant, il ne peut préciser l'ampleur des coûts que tout cela représenterait à l'échelle de la province, puisque l'appel de projet est prévu d'ici l'automne 2025. La hausse de la clientèle scolaire et le déficit d'espace sont des enjeux pour le réseau, confirme le président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, Dominique Robert. Les CSS n'ont pas le choix que de mettre en place ce type de mesures temporaires, indique-t-il, puisqu'ils ont l'obligation d'accueillir l'ensemble des élèves inscrits sur leur territoire. Le ministère tient à rappeler que les projets reportés ont fait l'objet d'une priorisation pour tenter de limiter le plus possible l'impact de cette décision. Il assure qu'ils seront menés à terme. Mais le rythme auquel ils avancent a dû être ajusté en fonction de la situation financière. Les détails concernant la reprise de ces projets seront connus en temps et lieu, a indiqué le responsable des relations de presse, Brian Saint-Louis. C'était 1500 classes manquantes de niveau préscolaire et primaire alors que les écoles débordent. Un texte de Julie Dufresne, paru le 25 mars 2025, sur le site de Radio-Canada.
Hausse de 245 %, la consommation de cannabis chez les aînés inquiète les experts. Un texte de Simon Charest, paru le 24 mars 2025, dans le Journal de Montréal. Les aînés consomment de plus en plus de cannabis et les experts sonnent l'alarme. Selon une étude récente menée au Québec, entre 2014 et 2020, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois a augmenté de 245 %. Ce groupe d'âge a connu la plus forte hausse, loin devant les 45 à 64 ans. Pendant la pandémie, nous avons fait face à beaucoup d'incertitudes, d'isolement et à un stress accru, commente d'emblée le docteur Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan. Ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est l'évolution du cannabis lui-même. En 1970, un joint de cannabis contenait en moyenne 1 % de THC. Aujourd'hui, la SQDC propose des produits dont la teneur en THC atteint parfois 30 %. Les baby-boomers, qui sont maintenant des aînés, disaient « Moi, je consommais, mais ça ne durait pas longtemps et ça allait bien. » Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas la même chose. Nuance la docteur Sylvie Lacourcière de l'équipe Promotion-Prévention-Comportement Sain du CIUS de la Mauricie-Centre du Québec. les risques de consommation. Cette consommation croissante n'est pas sans risque. Les aînés qui consomment du cannabis sont plus susceptibles de précipiter ou d'aggraver leur perte d'autonomie. Elle peut également augmenter les risques de chute, de développer un cancer, de souffrir de troubles de santé mentale ou encore de problèmes cardiovasculaires et pulmonaires. L'élimination des substances dans l'organisme devient plus lente avec l'âge, ce qui accroît leur intensité. C'est pour cela qu'il est important de redoubler d'efforts en matière de prévention et de sensibilisation, souligne Laurence Ruel de l'Association pour la santé publique du Québec. L'association de l'alcool ou du cannabis avec des médicaments peut également s'avérer dangereuse. Il n'est pas rare que les aînés prennent des médicaments pour la pression artérielle ou d'autres affections. Lorsque ces médicaments sont combinés avec des substances psychoactives comme l'alcool ou le THC, cela augmente les risques d'effets indésirables et le risque de chute, ajoute le docteur Picotte. Les raisons de la consommation. Parmi les motifs de consommation, l'accès désormais légal à la SQDC est souvent mentionné. Certains aînés recourent au cannabis pour les aider à traverser un deuil, une maladie, le vieillissement ou le passage à la retraite. Selon les experts, d'autres encore l'utilisent comme alternative à certains médicaments. Ce sont souvent des périodes longues, un processus d'adaptation qui peut influencer considérablement la consommation, précise Mme Ruel. Il est donc primordial de multiplier les efforts de sensibilisation auprès de nos aînés. C'était hausse de 245%, la consommation de cannabis chez les aînés inquiète les experts, un texte de Simon Charret, paru le 24 mars 2025 dans le Journal de Montréal.
Défilé de mode pour les personnes vivantes avec une déficience intellectuelle à Chicoutimi. Un texte de Marie-Michèle Bourassa et Lauriane Boudreau, paru le 23 mars 2025 sur le site de Radio-Canada. L'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay, ADHIS, et la Maison Gilles-Carle ont organisé récemment un défilé de mode dans le cadre de la Semaine de la déficience intellectuelle. C'est pour mettre en lumière notre clientèle. On veut pouvoir partager tous ces petits bonheurs-là avec les gens. On veut pouvoir montrer aux gens que la différence, elle n'est pas tant différente que ça. Les gens ont des passe-temps, les gens aiment la musique, on a tous des points communs dans le fond. Même si les gens ont des handicaps, affirme la coordonnatrice de la Maison Gilles-Carle, Stéphanie Maltais. Stéphanie Maltais ajoute que l'objectif est aussi de montrer que les personnes vivantes avec une déficience intellectuelle qui défilent ne sont pas si différentes. Ce sont les participants qui ont choisi les vêtements portés pour le défilé. L'organisation a également mis à disposition certaines pièces grâce à une collaboration avec les friperies du groupe Coder. Ces gens-là, ils ont des couleurs préférées, ils ont des mets préférés un peu comme tout le monde. Ils ont des occupations, ils ont des passe-temps. Ils sont très occupés et souvent, ce qu'on ne pense pas, c'est que ces gens-là, justement, on pense qu'ils n'ont peut-être pas de vie, ils n'ont peut-être pas de routine. Mais au contraire, ils sont très occupés, ils font plein de choses. Ce sont des artistes, ce sont des passionnés, ce sont des personnes qui sont très originales, dit Stéphanie Maltais. C'est l'actrice originaire de la région, Louise Portal, qui a animé l'événement au Vieux-Port de Chicoutimi. La maison Gilles-Carle, ça me touche, parce que c'est à deux maisons de là où j'ai grandi. Puis moi, quand j'étais adolescente, j'avais travaillé dans un camp pour les personnes handicapées comme monitrice. Donc la différence, dans le fond, elle vient nous toucher en plein cœur. Je trouve que c'était une très belle occasion, justement, de présenter des gens peut-être différents, mais qui ont besoin de s'animer, qui ont besoin de créativité. C'était Défilé de mode pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Chicoutimi. Un texte de Marie-Michèle Bourassa et Lauriane Boudreau, paru le 23 mars 2025 sur le site de Radio-Canada.
La Cour confirme la décision visant à améliorer l'accessibilité chez Air Canada, un texte de Christopher Reynolds, paru le 25 mars 2025 dans L'Éclaireur. La Cour d'appel fédérale confirme la décision de l'organisme de réglementation des transports du Canada visant à améliorer l'accessibilité pour les voyageurs aériens handicapés. Un tribunal judiciaire a rejeté l'appel d'Air Canada qui cherchait à annuler l'obligation d'accommoder pleinement les passagers dont les fauteuils roulants sont trop grands pour passer les portes de chargement de certains avions. Le tribunal a estimé que cela représentait des coûts trop onéreux pour la compagnie aérienne. Cette décision, rendue vendredi, marque l'aboutissement d'une affaire qui traîne depuis 2016, lorsque Tim Rose a appris que son fauteuil roulant électrique ne pouvait pas être transporté à bord d'un avion, l'empêchant ainsi de se rendre en Ohio, comme prévu. Après une série de décisions, l'Office des transports du Canada a statué en 2023 qu'Air Canada devait soit trouver aux passagers handicapés un vol similaire sur un itinéraire comparable, soit effectuer un échange de vol avec un avion capable de transporter l'appareil de mobilité. Air Canada a interjeté l'appel de l'obligation d'échange l'an dernier. Mais le juge Wyman Webb a écrit la semaine dernière que la Cour d'appel n'avait pas la compétence pour déterminer si cette disposition causait à la compagnie aérienne des contraintes excessives. En janvier 2024, Air Canada a indiqué l'an dernier avoir accepté la plupart des ordonnances de l'agence visant à supprimer les obstacles, notamment l'obligation de trouver un avion décollant dans la journée suivant la date de voyage souhaitée, à condition que le client en fasse la demande 3 semaines à l'avance. Mais elle a contesté une disposition clé. Elle a fait valoir que l'obligation de remplacement par des avions dotés de portes de chargement plus grandes, certains mesurent un peu plus de 75 cm de haut, tandis que de nombreux fauteuils roulants électriques ne peuvent être repliés qu'à une hauteur de 90 cm, constitue une contrainte excessive pour le transporteur, le plaçant en situation de désavantage concurrentiel. L'Office ne prend pas en compte des facteurs tels que l'impact d'une substitution ponctuelle d'appareils sur la sécurité globale et la qualité du service pour tous les autres passagers du réseau d'Air Canada, a ajouté le transporteur dans ses documents judiciaires. Vendredi, le juge Webb a statué qu'Air Canada n'avait pas expliqué en quoi l'Office avait commis une erreur en évaluant ce qui constituait une contrainte excessive pour la compagnie aérienne. L'Office avait noté que la compagnie déployait des avions de réserve quotidiennement pour faire face à toutes sortes de situations, des intempéries, aux problèmes mécaniques, et qu'elle devrait donc pouvoir faire de même occasionnellement pour des raisons d'accessibilité. Puisqu'Air Canada remplace régulièrement des aéronefs en cas de situation inhabituelle, il est peu probable qu'un remplacement visant à répondre aux besoins d'une personne handicapée ait une incidence grave sur les autres passagers ou sur la capacité d'Air Canada à fournir un service à la clientèle, a déclaré l'Office dans sa décision de 2023 citée par le juge Webb. Cette décision est la dernière étape d'un long parcours juridique. Des voyages difficiles. À l'été 2016, Tim Rose a été informé qu'il ne pouvait pas réserver un vol Toronto-Cleveland, ironiquement pour faire une présentation sur la sensibilisation au handicap dans les grandes entreprises, avait-il rapporté à la presse canadienne l'année dernière. Lorsque j'ai expliqué à la représentante du service médical d'Air Canada que c'était discriminatoire, elle m'a répondu « Non, votre fauteuil roulant est comme un bagage. S'il ne rentre pas, il ne rentre pas. » C'est ma mobilité. On ne qualifierait pas les jambes de quelqu'un de bagage, a souligné M. Rose, consultant en accessibilité et atteint de paralysie cérébrale. Dans ce cas précis, mes jambes n'ont même pas été autorisées à monter dans l'avion. En 2022, un tribunal de l'Office des transports du Canada a conclu que lui et toutes les personnes utilisant des aides à la mobilité plus grandes se heurtaient à un obstacle abusif dans leur déplacement chez Air Canada. Cette décision fait suite à de longs échanges entre les deux parties, à une décision de 2019 établissant l'existence d'obstacles à la mobilité, mais pas nécessairement abusifs, et à une suspension des procédures dues à la pandémie de COVID-19. Fin 2023, Air Canada a annoncé l'accélération de la mise en œuvre d'un plan d'accessibilité triennal après plusieurs signalements de maltraitance de passagers, notamment un incident où un homme atteint de paralysie cérébrale spastique a été contraint de se traîner hors d'un avion à Las Vegas sans assistance. Air Canada reconnaît les difficultés rencontrées par les clients handicapés lorsqu'ils voyagent en avion et accepte sa responsabilité de fournir un service pratique et uniforme afin que voyager avec nous soit plus facile. Il arrive que nous ne respections pas cet engagement et nous présentons nos plus sincères excuses, a déclaré le directeur général Michael Rousseau en novembre 2023. Les mesures prévues par le plan de la compagnie aérienne vont de la nomination d'un directeur de l'accessibilité à l'embarquement systématique des passagers qui demandent de l'assistance en premier. Air Canada a également mis en place des formations annuelles et récurrentes sur l'accessibilité, notamment sur l'utilisation d'un lève-passager Eagle pour ses 10 000 employés de l'aéroport et a intégré des aides à la mobilité à une application permettant de suivre les bagages. C'était « La Cour confirme la décision visant à améliorer l'accessibilité chez Air Canada », un texte de Christopher Reynolds, paru le 25 mars 2025 dans L'Éclaireur.